L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème « La parabole du Samaritain ». Nous avons toujours avec nous Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui venez de nous rejoindre.
Que Dieu te bénisse pour cet enseignement riche, très riche, je dirais même plus que très riche, parce que là nous sommes à peu près à une quarantaine d'émissions.
Amen.
Qu'il te bénisse et qu'il te rende au centuple tout ce temps de sacrifice.
Amen.
Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole, pour entendre ton messager. Bénis ton serviteur, Jonathan Junior Mambou. Bénis le message qui va sortir de sa bouche. Cher Saint-Esprit, parle à chacun d'entre nous, car cette parabole est riche d'enseignements. Nous avons beaucoup à apprendre et nous voulons beaucoup apprendre de ta part. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
La parabole du Samaritain. Luc 10, verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le remit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour ». Jonathan, qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur pour nous par rapport à cette parabole aujourd'hui?
Que Dieu soit béni, comme tu viens de le dire d'entrée des jeux, quand on a commencé. C'est un enseignement, une parabole pleine de leçons.
Pleine de leçons.
Ça, c'est vrai. Mais notre grande prière, c'est surtout que ces enseignements prennent place dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent. Parce que tu sais, Jésus, c'était un grand enseignant.
C'est un grand enseignant.
Oui, mais je le dis par rapport aux 33 ans qu'il a passé sur terre.
Tout à fait.
Quand il parlait, il touchait les cœurs. Hein? Il y a des hommes qui le disaient clairement, sans cacher, méprisés par les autres. Des soldats qui disent à ceux qui les envoient, en tout cas, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Une femme qui s'exclame devant tout le monde sans avoir peur, en tout cas, heureuse la femme qui a été ta maman, qui t'a porté dans ses seins. Et Jésus de rétorquer, non, heureux plutôt, c'est lui qui écoute la parole
et qui le met en pratique.
C'est ça vraiment notre prière, que cette parole trouve la place. Parce qu'en tout cas, lorsqu'on lit la Bible, Jésus l'a dit clairement, il y a 4 sols, c'est-à-dire 4 types de cœurs. Il y a de ceux qui, quand ils écoutent la parole, c'est comme la sémence qui tombe autour, le long du chemin. Et l'oiseau, il vient, il prend. Il y a de ceux qui, lorsqu'ils écoutent la parole, ça tombe sur le roc. Ils ne trouvent pas des racines. Ils écoutent, mais ils n'ont pas le souci de faire des efforts pour vérifier aussi si ce qu'on dit est vrai. Et pourtant, en le faisant, ils vont s'enraciner encore. Il y a de ceux qui ne sont que là des épines. Ils écoutent la parole, mais dans leur cœur, ils ont également le souci de satisfaire leur convoitise. La parole ne produira aucun fruit. Mais si cette parole peut tomber dans une bonne terre, en tout cas, le Seigneur sera glorifié. Cette parabole du Samaritain voudrait vraiment que ce message tombe dans un terrain fertile.
Sur une bonne terre, dans une bonne terre.
Parce que la grande leçon, c'est cet homme. Il était à Jérusalem, image de la présence de Dieu, du lieu où on a une communion avec le Seigneur, et il décida de descendre vers Jéricho. Et au milieu, les brigands, c'est-à-dire image de Satan, qui encercle tout le monde, que vous soyez archipape. Si c'est qui, on vous donne tous les titres du monde, on vous donne toutes les honneurs des hommes. Mais, quand vous quittez Jérusalem, pour descendre. Les brigands, ils ne regardent pas les titres. Les brigands regardent l'homme. Ils s'acharnent à l'homme, ils le dépouillent, ils le détruisent, ils enlèvent la sainteté, ils enlèvent la vérité, ils dépouillent toutes les armes et les ailes de l'évangile.
Ils enlèvent la morale.
Tout. Ils vous laissent à demi-mort. En tout cas, quand un chrétien se retrouve à demi-mort, il faut que le bon samaritain passe par là. Et heureusement pour nous, le samaritain aussi, le temps de la grâce.
Le temps de la grâce.
Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, mais Dieu a changé, hein? Dieu, dans les temps de Moïse, comme l'ont fait Corée, Dathan et Abiram, Dieu n'a pas hésité, il a ouvert
la terre,
et la terre les a engloutis vivants, et la terre s'est refermée. Il dit, mais aujourd'hui, Dieu a changé, il est devenu vieux. Dieu n'a pas changé, parce qu'on est au temps de la grâce. Mais au contraire, la grâce est encore un temps plus dur. Hein? Un temps dans lequel on doit prendre les choses vraiment au sérieux.
Parce que justement, c'est la grâce.
Oui. Donc, dans ce temps de la grâce, il y a encore le Samaritain. Et lorsqu'il vient, il verse de l'huile. C'est-à-dire, il nous envoie son esprit. Pour que son esprit nous amène dans sa présence. Et nous amène à prendre les choses au sérieux. Nous amène à ne pas mépriser la parole. Mais à pouvoir comprendre que nous avons péché. Et que nous devons retourner auprès de Dieu. Et lorsque nous sommes convaincus de cette réalité, l'homme se met à genoux. Et il prie. Il ne prie pas comme le pharisien. La parabole où Jésus disait qu'il y avait deux hommes. Il y en a un qui est monté au temple. Et c'était un pharisien. L'autre, c'était un publicain. Les publicains étaient réputés comme des hommes pécheurs, voleurs d'argent et tout ça.
Vie.
Et le pharisien priant commençait à prier à haute voix. Il dit, Seigneur, je te loue. Parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je donne ma dîme. Je prie, je jeûne. Je ne suis pas comme ce publicain-là. Donc ce publicain-là, sûrement peut-être il l'avait entendu. Et la Bible dit qu'il s'est penché, il frappait la poitrine, il dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis pécheur. » Il reconnaissait qu'il était pécheur. Et Jésus de dire, c'est dans Luc chapitre 18, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Luc 18 verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Donc lui, il est devenu Dieu. Il sait qu'il n'est pas comme le reste des hommes. « Qui sont ravisseurs, injustes, adultère ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Voilà, un homme qui reconnaissait que non, je suis pécheur. Aie pitié de moi. C'est ce que Dieu veut voir en nous. Demander pardon à Dieu, reconnaître notre faiblesse et demander à ce que Dieu nous aide à marcher en nouveauté de vie. Verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lèvera sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Il est important de s'abaisser parce que lorsqu'on s'abaisse, nous recevons le pardon de Dieu. C'est ce qui est symbolisé par le vin. En fait, quand il a versé l'huile, il a aussi versé le vin. Le vin enseigne le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est ce sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Jésus, pour sauver quelqu'un qui quitte Jérusalem vers Jéricho, il envoie seulement l'Esprit et ensuite il pardonne son péché à cause de son sang. C'est ça l'image que voudrait nous enseigner le samaritain qui versait l'huile et qui enfin commençons par le sang. Sans le sang, la Pâque du temps de Moïse n'aurait aucun sens, car en Égypte, le salut de ceux qui se trouvaient dans les maisons, en fait, leur salut reposait par le fait qu'ils devaient mettre sur les poteaux et sur les linteaux des portes, le sang.
Tout à fait.
Et Dieu avait dit clairement à Moïse que l'ange destructeur allait passer, et que s'il ne trouvait pas le sang sur le poteau et sur les linteaux, eh bien, l'ange destructeur allait entrer et il allait tuer le premier-né. Et ce jour-là, il y a eu des morts terribles. Hein?
Tout à fait.
Le premier-né, si votre papa c'était le premier-né, il mourait. Et si son fils premier-né était là, il mourait aussi. Et si sa femme était aussi la première, elle mourait. Et si elle avait des chèvres, la première chèvre mourut. Ouais. S'il y avait des souris, la première souris mourut. Et on dit dans la Bible qu'il y a eu des cris.
Dans toute l'Égypte.
Tel que jamais, il n'y a jamais eu des cris comme ça. Tu sais qu'il y a des animaux qui aussi pleurent à leur manière quand ils perdent
leurs enfants.
Oui, leurs enfants ou bien quelqu'un de proche. Quelqu'un, mais un animal qui leur ressemble. Alors imaginez-vous, un homme qui pleure et un chien également qui hurle. C'était quel type de cri? La Bible dit qu'il y a eu des cris terribles. Pourquoi? Parce que l'ange destructeur était entré. Il était entré pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé le sang sur les poteaux et sur les linteaux.
Sang de l'Alliance.
Le sang de l'Alliance, le sang de l'agneau. Ce sang qui dit, nous avons droit. Nous ne pouvons pas être atteints par l'ennemi. Le sang qui empêche à l'ennemi de pouvoir nous atteindre, de pouvoir nous saisir. Et je ne peux pas toucher à ses enfants. Tu ne peux pas les toucher à cause du sang de Jésus. Ceci me rappelle un livre que j'ai lu sur Martin Luther. Hein. J'ai lu ça, je ne sais pas confirmer, mais j'ai lu ça dans un livre. Semble-t-il qu'un jour, il a eu la visitation de l'ennemi qui est venu le visiter. Et quand l'ennemi est venu le visiter, il a commencé à lui rappeler tous les péchés qu'il avait faits. Il lui dit, tu sais que toi, tu as fait ça, ça, ça. Il dit oui. Il dit, tu sais, tel jour, tu avais encore désobéi, tu avais fait ça. Il dit oui. Il lui repose la question, est-ce qu'il y a encore un autre péché là?
Tu n'aurais pas oublié autre chose.
Il dit oui. Il lui rappelle encore là, la liste. Ok, ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a encore un autre péché? Il dit oui. Il lui a rappelé et encore, il lui pose encore la question. Est-ce qu'il y a encore un autre péché? Là, c'était fini. Non. J'ai dit ce qu'il fallait être dit. Alors lui, fini. Il prend son bic rouge. Il prend un papier blanc. Et il écrit un verset biblique qui dit « Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. »
De tout péché.
Et quand l'ennemi a vu ça, il s'est fâché, il a fui. Parce que c'était la parole. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
Hébreux 9, verset 13 dit « Si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Le sang de Jésus purifie des œuvres mortes.
C'est très important de comprendre cette réalité. Elle nous protège. Hein? Elle nous protège. Et l'ennemi est toujours là pour nous accuser. Il n'a peur de personne. Il n'a peur de personne. Tu imagines Élie, le sacrificateur. C'était un homme que Dieu utilisait puissamment parce que par lui, le feu quittait le ciel jusqu'en bas. Mais à un moment, Élie s'est enfoui, mais il s'est retrouvé quelque part sur une montagne. Et on a envoyé des soldats pour l'arrêter. Ces soldats sont arrivés, ils ont vu Élie assis sur la montagne. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit à Élie de descendre. Élie dit, si je suis un homme de Dieu, que les feux descendent du ciel et vous consument. Ça s'est fait ainsi.
Une première fois.
Une première fois. Le deuxième groupe est venu sans tenir compte que avant, ces gens-là étaient consumés par le feu. Ils retoquent dans la même de la même manière. D'ailleurs, les premiers ont dit « à toi de descendre ». Les seconds, ils viennent, on nous envoie « descends ». Tu vois l'ennemi, il ne recule pas.
Tout à fait.
Il ne tient pas compte que tu es Élie, ça ne lui dit rien. Même si tu es Élie, il vient, tu es sur la montagne, ils vont venir t'attaquer. La montagne, c'est quoi pour nous aujourd'hui? La montagne, c'est lorsque nous sommes à Jérusalem. Lorsque nous sommes attachés à la parole, nous sommes sur la montagne. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous marchons conformément à la parole, il vient, descend. Comment il va te demander, il nous demande de descendre? C'est par ce qu'il nous présente. Il nous présente tout ce qu'on voit à la télé. Il nous présente des tentations, hein, pour nous amener à avoir l'appétit du monde et de quitter le lieu le plus élevé vers le lieu le plus bas de la terre, qui est Jéricho. Parce qu'en fait, sur un plan géographique, Jéricho est le lieu le plus bas de toute la terre. Il est le plus bas que la France, le plus bas que les États-Unis, le plus bas que l'Australie. Vous pouvez le vérifier, c'est comme ça. Donc, si Dieu a choisi cette ville la plus basse, c'est aussi pour nous enseigner que ce monde de péché est le lieu le plus bas par rapport à son royaume. Jésus pouvait dire avec assurance à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Car si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Donc le sang de Jésus versé pour guérir cet homme, pour qu'il soit pur devant Dieu. Mais je voulais quand même donner une précision par rapport au vin, par exemple, que nous célébrons à la Sainte-Seine. Lorsque nous célébrons cette cérémonie, nous ne le faisons pas une fois, on le fait deux fois à chaque fois.
Ça dépend d'une communauté à une autre.
Ça c'est vrai. Mais ceci ne veut pas dire qu'en buvant du vin, lors de la célébration de la Sainte-Seine, nous buvons du sang. Non. Ce serait comme si on buvait du sang tous les jours. Non, non. Et puis ce serait comme si Jésus-Christ doit s'offrir tous les jours pour qu'on ait tous les jours son sang et célébrer la Sainte-Seine. Non. La Bible dit clairement que le Seigneur Jésus s'est offert une seule fois. Une seule fois. Je vais lire quand même ces versets, c'est important. De comprendre le sens des actes du Seigneur. Le Seigneur s'est offert une seule fois la croix. Hébreux 7, verset 27. Hébreux 7, 27. Nous lisons, il est dit, je commence au verset 26, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, donc Jésus, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, regardez bien, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. » D'abord pour ses propres péchés, parce que le souverain sacrificateur offrait d'abord un taureau pour ses propres péchés. Ensuite, pour ceux du peuple, ils offraient des fois le bouc pour le peuple. Car ceci, il l'a fait, Jésus, il l'a fait en tant que souverain sacrificateur, une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. C'est clair, Jésus ne s'offre pas plusieurs fois. Hébreux 9, versets 25 à 26. Je vais lire encore ce verset. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme les souverains sacrificateurs entrent chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois. Ce texte montre clairement, pour ceux qui vont lire la suite, que Jésus s'est offert une fois. Et c'est fini. Donc, nous ne buvons pas le sang lorsque nous célébrons la Sainte Seine, le repas lorsque nous prenons le vin, mais ce repas nous met en communion.
Dit en Matthieu 26, verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit en le donnant à ses disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. C'est un symbole. 27. Il prit ensuite une coupe et après l'avoir rendu grâce, il en leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » C'est toujours un symbole. Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Beaucoup de chrétiens ont été tués dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'ère chrétienne. Beaucoup de chrétiens ont été tués parce que justement on a très mal compris et très mal interprété ce verset. On les a traités de cannibales. Non. Le pain, c'est un symbole, c'est un symbole du corps de Christ. Le vin, c'est un symbole du sang de Christ. Nous ne buvons pas son sang, mais c'est un symbole, nous participons.
Et c'est important, je vais lire un autre verset, nous sommes toujours là par rapport au vin. 1 Corinthiens, toujours dans la même pensée, Paul vient expliquer. 1 Corinthiens 10, verset 16, Paul dit ceci. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ. Voilà. Lorsque nous prenons ce vin, nous communions avec le sang de Jésus. Le pain que nous rompons. n'est-il pas la communion au corps de Christ? Nous entrons en contact, en communion avec le corps de Christ. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain, c'est-à-dire Jésus, c'est lui le pain. Vous voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Donc on insiste beaucoup sur la communion. Regardez le verset, chapitre 11, précisément le verset 27. 1 Corinthiens 11, 27. C'est pourquoi, donc d'abord j'ai lu 1 Corinthiens 10, 16 à 18. Maintenant c'est 1 Corinthiens 11, 27. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ici, c'est par rapport à la communion. Mais nous ne buvons pas le sang, non. Nous buvons le vin qui nous met en communion avec Christ. Et quand le Seigneur nous regarde, il nous considère juste à cause de son sang qui a coulé. Mais attention, le fait de participer à la Sainte Cène nous demande aussi de marcher dans l'obéissance à la parole.
Tout à fait.
Nous demande aussi de marcher à l'attachement à Dieu. Je suis d'accord avec Paul qui a dit toujours dans 1 Corinthiens 10,
verset 30,
que ceux qui mangent indignement...
Non, verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même.
Oui.
Verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts.
Il a raison de dire ça, c'est sans les textes, c'est eux donner les textes, c'est...
1 Corinthiens 11, versets 29 à 30.
Ok, pour ceux qui nous suivent. Donc, pourquoi Paul a même dit, éprouvez-vous vous-même, examinez-vous vous-même pour être sûr si vous êtes dans la foi.
On ne prend pas... En fait, en principe, quelqu'un qui vit dans le péché n'a pas droit à participer à cette sainte scène. Mais c'est vous-même face à votre propre conscience. Parce que nous ne sommes pas là pour dire, toi tu prends, toi tu ne prends pas. Non. C'est vous-même, si votre conscience vous dit, vous êtes en règle avec le Seigneur, prenez. Mais si votre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle avec le Seigneur, ne prenez pas. Et si vous prenez malgré que la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en train de vous dire, attention, il y a péché dans votre vie, il faut régler cette histoire de péché, vous prenez, la Bible dit, vous prenez un jugement contre vous-même.
Un jugement de Dieu, ce n'est pas un jugement des hommes. Paul pouvait donc dire à Timothée, 1 Timothée 4, 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. C'est très important. Car en agissant ainsi, c'est-à-dire en veillant sur toi-même et sur ton enseignement, tu te sauveras toi-même.
Et ceux qui t'écoutent.
Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc on doit veiller sur nous pour ne pas tomber dans cette réalité qui nous concerne tous. Nous ne sommes pas supérieurs à vous. J'aime bien souvent quand tu le dis que ce n'est pas que parce que nous sommes plus excellents que nous parlons, que nous sommes meilleurs, non. Dieu simplement a choisi que nous soyons des canaux par lesquels nous allons partager la parole.
C'est une grâce.
Oui. Et même peut-être parmi ceux qui nous écoutent, ils peuvent également dire encore des choses merveilleuses qui vont nous édifier. Moi, j'aime beaucoup aussi écouter.
C'est pour ça, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous, à envoyer des emails dans nos adresses pour nous corriger, pour nous aider aussi à améliorer, parce que nous sommes convaincus que nous ne sommes pas les détenteurs de la parole de Dieu.
Le sang, le vin, et ce qu'il donne le salut à l'humanité. Seul le sang donne le salut à l'humanité. Et ce sang-là, ce n'est pas le sang d'un homme, mais le sang de Jésus. Parce que le sang des hommes ne peuvent pas racheter des hommes. Mais le sang de Jésus, si. Hein? Le sang de l'homme est limité. Regardez le sang de l'homme. Psaume 49, verset 8. La Bible dit ceci. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat.
Tout à fait.
L'homme, il ne peut pas racheter son frère.
Il ne peut pas racheter son frère.
Ni donner le prix du rachat. Ce prix qui enlève quelqu'un dans la voie des ténèbres et qui les conduit dans la voie du salut. Aucun homme ne peut le donner. C'est pour cela que nous devons beaucoup de respect au Créateur. Tous ceux qui critiquent le Créateur, ils ont autre chose qu'ils aiment. ils ont autre chose qu'ils camouflent. Hein? C'est comme quelqu'un qui a aimé la femme, c'était un adultère, il a aimé la femme d'un autre. Alors un prédicateur est venu prêcher cette femme. Alors lui, se trouvant là, il a commencé à critiquer le prédicateur. Vous, vous êtes des menteurs. La femme dit non, laisse écouter la parole. Non, vous, vous êtes des aventuriers. Vous aimez toujours à prêcher des histoires inutiles. En fait, en réalité, il craignait que ce message puisse toucher cette femme et amener cette femme à la raison. Donc,
tout à fait.
Le soubassement qui a mené la critique, c'était qu'il voulait toujours entretenir ce besoin sadique, ce besoin impur. Pourquoi ? Parce que son appétit, c'était l'adultère. Voilà, l'homme ne peut pas sauver l'autre.
Mon frère, ma sœur, seul le sang de Jésus-Christ purifie. Le sang des animaux dans l'Ancien Testament couvrait les péchés, mais n'effaçait pas les péchés. Le sang de Jésus-Christ purifie, efface, désintègre, nettoie, lave l'homme de son péché.
Amen.
Mon frère, ma sœur, seul le sang de Jésus-Christ. Et quand on parle de purifier, il purifie tout péché. Il n'y a pas un péché qui soit plus fort que le sang de Jésus-Christ. Mm. Prenez seulement l'image d'une lessive. Il n'y a pas un péché qui va résister quand Dieu va commencer à laver le chrétien. Quand il va commencer à le nettoyer, il n'y a pas. C'est pour cela, venez à Jésus-Christ. Ne résistez pas. Que vous soyez une prostituée, un homosexuel, que vous soyez un impudique, un adultère, un ivrogne, un drogué, un je ne sais quoi, l'homme le plus pire qui soit sur cette terre, le sang de Jésus-Christ va vous rendre aussi blanc que la neige. Et même que quand on va comparer la neige à vous, la neige va être sale.
Amen.
Parce que vous serez plus que blanc.
Amen.
Si vous voulez recevoir ce sang dans votre vie, baissez la tête dans la prière. Et le frère Jonathan va nous conduire dans une prière de pardon et de repentance.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai conduit ma vie seule. Je viens à toi. Pardonne mes péchés. Conduis ma vie au salut. Purifie-moi à cause de ton sang et que je devienne plus blanc que la neige à tes yeux. Merci Seigneur Jésus parce que tu as écouté ma prière. Merci Seigneur Jésus parce que tu as pardonné mon péché. Amen.
Mon frère, ma sœur, si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou, le nom de cette émission est « Venez à Jésus ». Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et que Dieu vous aide à garder votre communion avec Dieu.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.